pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off. J'ai dû assister à des tortures effectuées par deux officiers de police judiciaire. Mes fonctions m'imposaient d'assister à certaines de ces séances de façon à prendre note des renseignements qui étaient fournis par les uns et les autres. C'est là que j'ai découvert les procédés utilisés fréquemment. Les méthodes sur le terrain entre les troupes allemandes en occupation en France et les troupes françaises en occupation en Indochine et en Algérie sont assez comparables. Ça s'est toujours fait, hein. Toutes les armées du monde ont procédé ainsi. Moi qui fais l'Indochine, l'Algérie, eh ben, on faisait exactement comme les Allemands. Quand on était victime d'un attentat ou d'un sabotage, eh ben, on s'en prenait sur les populations voisines du lieu où avait eu l'attentat ou le sabotage. Et les Allemands, bah, ils faisaient déjà comme ça avant.
Quand tu dis « on », c'est l'armée française. Oui, hein. Il se trouve que toi, tu n'as pas pratiqué.
Oui, je n'ai pas pratiqué personnellement, mais j'y ai été mêlé malgré tout. Hein. Du moment que je ne me suis pas opposé, j'étais consentant. On était pris dans un tel bain. Il faut se mettre aussi dans l'ambiance dans laquelle on était. Hein. On était dans une telle ambiance avec des attentats du FLN, des femmes étripées, des gosses pareils, etc., que on voulait que ça cesse, et pour que ça cesse, ben, il fallait être répressif.
Salut tout le monde et bienvenue à vous pour ce 10e rendez-vous avec Pat, Pierre, Alban, Thomas, ex-héros de la Résistance, devenu occupant en Indochine, puis en Algérie, où depuis 1954, il mène une guerre qui n'a pas encore de nom. Salut Pat.
Salut Jean-Baptiste.
Nous allons aujourd'hui parler de faits qui sont peu racontés, et notamment de ces deux complots, ces deux putschs organisés par des militaires anti-républicains, voire fascisants. Tout d'abord, le coup d'État qui, en 58, met De Gaulle au pouvoir, en toute illégalité, et puis cette tentative de putsch de 1961 qui échoue. Vous voici aujourd'hui en 1961, année terrible, lugubre, meurtrière. En 61, des militaires qui ont soutenu le coup d'État de De Gaulle de 58 se sentent trahis et menacent à nouveau la République d'un putsch. De Gaulle s'est bien servi d'eux pour accéder au pouvoir. Mais si la guerre d'Algérie est un bâton merdeux dont le général va se débarrasser en proposant un référendum sur l'autodétermination, quoi qu'il arrive, la France compte bien continuer à pomper le pétrole algérien et à faire exploser ses bombes atomiques dans le Sahara.
Quels sont nos intérêts ? Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert ou que nous découvririons.
61, année d'attentats et de crimes horribles commis de toutes parts. Par l'armée, par le FLN algérien et par l'OAS, organisation armée secrète, pieds noirs désespérés qui sont nés en Algérie et se sentent menacés. Souvent, des gens modestes, terrorisés et guidés par des fanatiques de l'apartheid qui règnent depuis 1830 en Algérie française. Ces pieds noirs qui ont monté des barricades à Alger un an plus tôt.
On connaît maintenant les tristes conséquences du drame d'Alger. 25 morts, 140 blessés. La foule que des tracts avaient appelé à manifester commençait à édifier des barricades. Dans ce climat de fièvre où trop de mains serraient des armes, des coups de feu allaient retentir.
Algérois, une armée des maquis s'organise. Ne rendez pas vos armes. Regroupez-vous. Tuez tous les traîtres. Petit et grand.
Le tract est signé
OAS.
La métropole, elle aussi, découvre l'OAS. Des plastiques explosent dans les lieux publics. Puisque le FLN est parvenu à se faire reconnaître par la terreur, l'OAS va employer le même moyen. L'organisation secrète entend dicter sa loi à la France. En vain.
La guerre, c'est un truc à la con. Et en 1961, les cons sont à l'honneur avec ce tube de Brassens.
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Connaissant les cons innocents, les jeunes cons qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons qui confessaient le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
Eh bien, ces scènes de guerre auxquelles vous venez d'assister, qui pour vous sont comme une actualité insolite, pour vous qui êtes en ce moment confortablement assis dans votre fauteuil, qui irait demain, comme tous les matins, à votre bureau, elles sont, en revanche, la réalité quotidienne pour des centaines de gars de chez nous, les militaires français, qui se trouvent sur la frontière algéro-tunisienne, sur ce fameux barrage électrifié que M. Bourguiba a appelé au cours d'une récente conférence de presse, le barrage qui tue. Eh bien, ce barrage dont on vous parle tout le temps, vous ne l'avez jamais vu.
1961, presque 20 ans que Pat fait la guerre, depuis 1943. Il s'enfonce ici dans sa 8e année de ces interminables événements d'Algérie, comme on disait alors. Pat, ex-instituteur, ex-résistant, humaniste, communiste de cœur, Pat est aussi militaire de carrière, soldat professionnel. Et quand la guerre vous tombe dessus, dans la frénésie du combat, il n'y a plus d'humanisme, il n'y a plus de Rose ni de Reseda. Il y a des êtres humains qui essayent d'en assassiner d'autres et de survivre.
Vol !
Ça se voit pas à la radio, mais quand j'ai parlé d'odeur de poudre qui brûle, tu t'es fendu la gueule. J'ai vu.
C'est une image qu'on emploie assez souvent, mais enfin, c'est une image un peu vieillie. Hein.
Tu m'as dit une fois que, n'empêche que l'odeur de la poudre qui brûle, ça, ah. Ça shoot un peu, non ça...
Ah oui, 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 oui. Oh, bah, ça, c'est absolument certain. Hein. Lorsque le combat a commencé, cette odeur de poudre donne des ailes pour faire plus, pour se surpasser. J'en ai fait l'expérience, surtout en Algérie. Je me suis trouvé dans une situation où le chef de section venait d'être tué. Et j'étais, moi, capitaine. Ce chef de section était sergent-chef. Sa section était toute désorientée. Les gars, qui étaient presque tous des Algériens, commençaient à paniquer et puis à faire demi-tour et à se sauver. Je les ai rassemblés, je leur ai crié « Le sergent-chef Intel est mort, mais moi je suis là et je prends le commandement de votre section. Suivez-moi. » Et aussitôt, ils ont fait demi-tour, ils sont venus et on est monté à l'assaut du Djebel, qui était l'objectif. C'est un réflexe qui est naturel quand on est militaire.
Un imposant dispositif militaire a été mis en place sous la direction du général Massu, chargé de maintenir l'ordre dans la ville. Plus de 5000 hommes, appuyés par de solides réserves, veillent ainsi à la sécurité des Algérois.
Aucun acte de torture ne s'est produit à ma connaissance ni à la vôtre depuis la venue à Alger du général de Gaulle. Il ne doit plus s'en produire désormais.
Dans un ordre du jour, Bijard dit à ses hommes:
les directives concernant cette guerre, les ordres écrits n'existent pas, et pour cause. Peu importe. Vous interrogerez durement les vrais coupables, avec les moyens bien connus qui nous répugnent.
La torture est érigée en système. Il n'y a plus de loi, plus de protection des individus, plus d'inculpation régulière.
1961 est une année atrocement violente. Les pires crimes sont commis par tous les acteurs de cette guerre d'Algérie. Le FLN, qui lutte et recrute aussi par la terreur qu'il impose aux musulmans. Les pieds noirs désespérés de l'OAS, qui se lancent dans une frénésie de meurtres. Et l'armée française, qui continue à assassiner et à torturer. Même Pat a perdu ses repères humanistes. Et en tant qu'officier de renseignement, il assiste à des séances de torture. Le sachant ancien résistant, l'un de ses supérieurs lui a expliqué qu'il vaut mieux que ce soit lui qui soit là, plutôt qu'un autre pire que lui. Pat participe aussi à des stages de guerre psychologique, stages aussi fréquentés par des officiers sud-américains venus apprendre les dernières techniques de l'armée française.
Des applications sur le terrain, des procédés qui étaient prescrits à l'école de Philippeville, par exemple, de Bijard, ou bien qui était prescrit par les méthodes de Lacheroy et du commandant Trinquet, les préceptes qui étaient lancés. Mais il y a eu de nombreuses applications. Pendant la bataille d'Alger, on parlait des crevettes de Bijard, il y en a eu d'autres, mais il y a eu la ferme Améziane. La ferme Améziane, c'était après de Constantine, une ferme qui était aux ordres du commandant Rodier, qui recevait des suspects, qui étaient torturés, certains à mort, pour être souvent exécutés sommairement après. Alors là, il y a eu des livres. Il y a eu un livre qui porte le nom « La ferme améziane » par Jean-Luc Enaudi. On peut s'y reporter pour avoir tous les détails. C'est pour la peine que je les dise ici. Moi, puisque je ne l'ai pas connu, cette ferme, j'ai simplement entendu parler.
Viols, aussi bien hommes que femmes, les hommes étant violés soit par des bâtons, soit par des canons de fusil, de pistolets ou autre chose.
Vous, dans le temps où vous étiez là, dans cette villa, vous avez assisté à combien de ces séances? Est-ce que vous les chiffrez? Est-ce que ça représentait comme gens torturés?
Extrait du documentaire de Patrick Rothman, L'ennemi intime.
Je serais tenté de dire qu'il y avait bien en moyenne une dizaine à une quinzaine de personnes qui étaient très sérieusement torturées par jour. Ça fait dans les 300-400 par mois. Je pense que quand même, c'est important, quoi.
Tu as aussi évoqué au cours de notre entretien un stage avec le roi.
Ça se passe dans un petit village pas très loin d'Oran, qui s'appelle Sassel. Il y avait des cantonnements, des baraquements là-bas, assez nombreux, et qui abrite un commando aux ordres du colonel Leroy, lequel est chargé de donner des cours d'action psychologique, entre guillemets, car en fait, ce sont des cours souvent de torture, puisque Leroy avait pour principe, lorsque je l'ai connu comme lieutenant en Indochine, avait pour principe de dire « les plus obéis sont les plus craints ». Et il avait toujours, alors qu'il était devenu colonel, pas mal d'années après, il avait toujours les mêmes préceptes « les plus obéis seront les plus craints ». Donc il disait « nous avons perdu l'Indochine parce que nous n'avons pas été assez craints, et nous l'aurions gardé si nous l'avions été ». En Algérie, nous semblons nous orienter vers la même voie. Si nous ne sommes pas suffisamment craints, nous ne serons pas obéis et nous devrons quitter le pays. Voilà, c'était ce qu'il nous disait pendant ses cours. Il nous faisait des cours d'action psychologique, entre guillemets, appliquées. Et je suis resté une semaine à suivre ces cours-là.
Des cours, tu veux dire, où les officiers sont comme des élèves dans une salle de classe et le gars, il est debout au tableau noir?
Un petit peu, quoi. Il nous faisait des démonstrations de la façon dont on devait procéder pour torturer, pour pour appliquer les méthodes de la Charroi et de Trinquet.
En stage, on vous montrait, on dit voilà, messieurs, ceci est une gégène, ceci est une baignoire.
Je me souviens plus très bien comment ça se passait. Il faut pas que je brode, parce que ça serait dangereux si je m'amusais. Je sais qu'il nous expliquait, mais je crois pas, non. Je me souviens, j'ai pas le souvenir qu'il nous faisait des cours pratiques avec des gens qui représentaient les tortionnaires, puis les autres, les torturés. Non, je me souviens pas de ça. Mais il nous donnait des cours pratiques, en tout cas, des explications pratiques. Ça, c'est sûr.
Un petit loriston, que lui donnerez-vous, vous
un petit loriston, que lui donnerez-vous?
Des choux-fleurs à la merdre, des pots de polyèdre,
une légion d'honneur, des tartines d'épingle,
une lumelle aux fesses, un arrache-aube en bronze,
une grosse tête bien saignante, une gonnerie filante,
un bout de bois dans l'oreille, des coups de pied dans les couilles,
un sac de caca jaune pour lui faire plaisir.
Au guet, au guet, au guet, au guet. Le joli loriston tonton.
Sur un texte de Boris Vian, les quatre barbus évoquent la torture rue Loriston, siège parisien de la Gestapo française sous l'occupation. Dans ce vaste champ de bataille qui est devenu l'Algérie française de 1961, la torture est devenue une industrie qui frappe aveuglément la population algérienne, comme par exemple cette innocente dont Pat se souvient encore.
Oui, c'était une couturière du village de Dublino. Ma femme l'avait fait travailler, d'ailleurs, pour différentes choses. Elle était très sympathique. Elle était habillée à l'européenne, coiffée à l'européenne. Enfin, elle était très libre de... On la distinguait assez mal d'une européenne, d'ailleurs.
Mais c'était une Algérienne, enfin une musulmane. Enfin, comment on dit, d'ailleurs?
C'était une Algérienne. Elle était vraisemblablement musulmane. Ils étaient tous musulmans. Mais enfin, certains d'entre eux étaient pratiquants, d'autres ne l'étaient pas. Et... un jour, on vient me prévenir, bon ben, elle a été enlevée par les Félagas. Ils l'ont prise. Moi, j'étais à moitié étonné parce que, sachant les mœurs relativement libres, pas voilées du tout qu'elle avait, je me suis dit, ah bon, c'est pas impossible. Et puis, quelqu'un me dit, mais non, c'est des gars qui étaient habillés en harki et qui venaient de Saint-Hippolyte. Oh, je me dis, Saint-Hippolyte, c'était le chef-lieu du quartier auquel j'appartenais. Ça me semble curieux, ça. Alors je dis, bon, ben, je vais aller me renseigner. Et je suis parti à Saint-Hippolyte. Et puis je suis allé voir le lieutenant Avias, qui était chef, on appelait ça un CTT, du centre de tri et de transit, implanté à Saint-Hippolyte. C'était là où on mettait tous les suspects. Et puis il y avait les interrogatoires musclés qui s'y prêtaient, des policiers qui venaient, qui interrogeait les suspects, etc. Bon, alors je vais là-bas, je dis, tiens, à Saint-Hippolyte, puis je vais voir le lieutenant Avias. Je lui dis, dites donc, vous n'auriez pas, mademoiselle, alors là, son nom, je l'ai oublié complètement, qui serait vraiment suspecté d'appartenir au FLN, m'a-t-on dit, à Dublino. Alors il m'a dit, oui, oui, effectivement, j'ai cette personne. Et il dit, je vais vous la montrer, si vous voulez. Puis, mais il dit, on a un dossier sur elle qui est très chargé. Elle est agent du FLN, elle renseigne le FLN. Alors là, je dis, vous m'épatez, hein, parce que j'ai jamais entendu parler de ça, moi, à Dublino. Enfin, si vous me le dites. Alors, il m'emmène sous un grand hangar, couvert de tôle. Il y avait une dizaine de lits de l'armée, de chalits, quoi, dit-on. Et puis, la première personne qui était au bord de l'allée, c'était ma couturière. Et comme tous les autres, hommes et femmes, elle était complètement nue. Et il y avait des électrodes qui traînaient par terre, au pied de son lit. Et puis elle était attachée les bras, les mains au montant supérieur du lit et les pieds au montant inférieur. Elle ne pouvait pas bouger. Oh! J'étais stupéfait, puis choqué en même temps de la voir comme ça. Alors elle m'a plongé un regard. Alors ça, il me restera toujours. Hein. Elle avait l'air de dire, c'était un salaud, tu me faisais bonne figure là-bas à Dublino, en parlant avec moi. Et puis c'est toi certainement qui m'a dénoncé pour venir ici. Puis regarde où, dans l'état où je suis là, toute nue devant tous les hommes qui circulent là. C'est la honte pour moi. C'est ça ce que son regard me disait. Alors moi j'ai dit au lieutenant Avias, je lui ai dit, vous me donnez les preuves formelles qu'elle est agent du FLN. Sinon, j'en réfère à l'échelon supérieur. Je connais des gens bien placés à l'échelon supérieur et vous aurez affaire à moi. J'ai joué d'influence, là, j'ai dit, je veux qu'elle soit libérée. Et il m'a avoué, après ça, il m'a dit, non, on n'a pas de preuves formelles. Alors il dit, bon, ben, n'ayant pas de preuves formelles, je la libère. Il l'a libérée et je suis allé la voir chez elle. Oh là là, ça a été terrible, hein, parce que elle était vraiment... Elle était choquée, elle était humiliée. Je lui ai dit, mais je vous assure que c'est pas moi. Je vous donne ma parole que... Je dis, vous me connaissez suffisamment. Vous savez la réputation que j'ai ici à Dublino. C'est pas moi. Moi, je vous ai pas dénoncé. Alors, elle m'a simplement dit, ben, je vous crois, vous. Mais elle dit, ce sont les vôtres, les Français, qui m'ont arrêté. Ce sont les vôtres. Et alors là, je suis parti avec ça, mais ça m'a fait mal. On s'est pas fait une amie ce jour-là avec elle. Elle était neutre avant, hein. Elle n'était pas pour les Français, mais elle n'était pas foncièrement pour le FLN non plus, quoi. Elle était... Mais alors là, je suis certain qu'elle est devenue FLN à fond, hein. J'en suis à peu près sûr, hein. Après cette chose-là.
Torturée, probablement violée.
Ça, je n'en sais rien.
Tu lui as posé la question?
Oui, je lui ai posé la question, mais elle n'a pas voulu me répondre. Alors, je l'ai laissé avec son secret. Ça, je sais pas. Mais enfin, ayant été mis avec les autres dans ces conditions-là, présenté nu comme ça, je suppose qu'il y en a qui ont pas dû se priver.
On l'a évoqué plusieurs fois au cours de ces entretiens, quand une armée opprime, réprime, fait des représailles, mécaniquement, ça fait grossir les rangs de la résistance en face. Et inversement, des actions de réelle pacification, hein, construire des écoles, faire des actions de médecine, etc., ça, c'est pas bon pour les maquis. Tu as une citation, je crois.
Oui, bah c'est celle du commandant Azzedine qui, par la suite, a écrit ses mémoires. Les actions pacifiques de l'armée française sont un danger pour la révolution alors que la répression les renforce. Parce que le peuple algérien avait tendance à accorder sa sympathie envers ceux qui ne lui faisaient pas de grosses misères. Hein. Or, nous, à chaque fois qu'on était sympa avec eux, qu'on les aidait, tout ça, ben, ils nous le rendaient bien par une certaine, pas collaboration, mais au moins par des actes qui étaient en notre faveur. Alors que quand le FLN prenait certains d'entre eux qui étaient suspects à leurs yeux, les torturaient et en tuaient certains, eh bien, il est certain que la population se détournait du FLN et allait plutôt vers nous. L'inverse étant vrai, comme c'est nous qui avions fait le plus d'exactions, me semble-t-il, hein, je me trompe peut-être, hein. Et puis il y avait aussi le fait que c'était quand même leurs frères de race, hein. Donc la population allait plutôt vers le FLN que vers les Français. Nous, on était malgré tout les occupants de leur pays.
Un petit loriston, que lui donnerez-vous, vous?
Un petit loriston, que lui donnerez-vous?
Une syphilis féroce, une névralgie atroce,
un bâton à physique, une gidouille ubique,
un bon décervelage dans une toile d'emballage,
des rastrons en salade, une crise de nerfs bien chaude,
des ulcères sur la bite, une chandelle verte,
un grand tonneau de pisse, plein de mauvaises nouvelles,
une lumelle aux fesses, un alzo bonbon,
une légion d'honneur, des tartines d'épingle,
des choux-fleurs à la merde, des peaux de polyèdre,
une grosse tête bien saignante, une gonnerie filante,
un boule de bois dans l'oreille, des coups de pied dans les couilles,
un sac de caca jaune pour lui faire plaisir. Au gué, au gué,
au gué, le joli Loriston, ton, ton.
Vous êtes toujours avec Pat qui vous raconte sa guerre d'Algérie. Voici un extrait de l'un de ses livres intitulé « Les désarrois d'un officier en Algérie ». Pat
assiste un jour à une conversation entre des officiers et un policier. Il y a de plus en plus de femmes félouses, déclare l'un. Oui, renchérit l'autre. Et elles nous font plus de mal que les hommes, car on ne se méfie pas d'elles. Puisqu'elles nous combattent comme les hommes, elles doivent subir les mêmes traitements qu'eux. On ne se gêne pas, ajoute un policier pied noir. Chez nous, elles dégustent drôlement. Il y a un truc qu'elles n'aiment pas du tout et qui les fait parler. On leur enfonce une bouteille dans la chatte et on la tourne. Ça les fait drôlement jouir. Je n'ai pas le courage de répondre. Je me contente de cracher par terre et de partir. Je compléterai cette citation d'une autre de ce personnage donc récurrent dans notre entretien, le colonel Bijard. Lorsque le général de Gaulle et monsieur Delouvrier sont venus à Saïda, ils m'ont dit « plus de torture ». Messieurs, moi, je vous dis « plus de torture », mais torturez quand même.
J'ai tiré ça d'un ouvrage, d'un appelé, qui a écrit un livre qui s'appelait « Deuxième classe en Algérie ». Je ne peux pas le certifier moi-même, puisque je n'ai pas entendu dire ça, mais cet homme, me semble-t-il, est très crédible, et je crois qu'on peut avoir foi en sa déclaration.
Ces méthodes d'interrogatoire, la question, la torture, ce sont les officiers qui décident ou pas de les employer. Toi, sous ton commandement, ça n'a jamais eu lieu.
Ça n'a jamais eu lieu, mais j'ai malgré tout fait des interrogatoires assez poussés. Je l'ai fait en toute connaissance de cause, parce que c'était classique dans toutes les compagnies de passer des types à la Gégène. Moi, je ne les ai pas passés à la Gégène, mais je leur ai fait peur, je leur ai fait craindre des suspects, quoi, interrogés. De les torturer, je leur ai, de façon à ce qu'ils me donnent quand même quelques renseignements. Je l'ai fait, ben oui, ça, je c'est pour ce que j'ai fait de mieux, hein, loin de là, mais enfin, je l'ai fait, je l'ai dit. J'ai monté, en somme, un espèce de scénario de passage à la torture que je n'ai pas mis en application, mais voilà ce que j'ai fait.
Ça consiste en quoi? Montrer aux suspects qu'il y a du matériel prêt à l'emploi?
Oui, 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 pour essayer d'obtenir des renseignements, parce que j'étais bien obligé, c'était quand même ma fonction, d'obtenir des renseignements. Et si je n'avais jamais fourni de renseignements en haut lieu, ben, j'aurais été mis à l'index, et puis on m'aurait retiré le commandement de ma compagnie, ça c'est sûr. Donc j'ai exécuté le plus sommairement possible, enfin, je pourrais pas dire le plus humainement, mais enfin le moins inhumainement possible les fonctions qui m'étaient confiées.
Et que te dit le résistant FTP que tu as été dans ces moments-là?
Il me dit qu'il n'est pas fier de ce que je fais là-bas, mais j'avais reçu des recommandations de la part du Parti communiste. Il me disait qu'il faut rester toujours avec les hommes et les cadres de l'armée à laquelle tu appartiens, parce que tu es beaucoup plus utile en leur faisant comprendre ce qu'il y a de mal et ce qu'il y a de bien à faire qu'en étant en dehors d'eux.
Déjà les motifs du projet de loi, qu'en ma qualité de président de la République, je soumets à votre approbation au sujet de l'Algérie.
Début 61, De Gaulle annonce la tenue d'un scrutin sur l'autodétermination de l'Algérie. Il est évident que les Français musulmans d'Algérie voteront oui, comme les métropolitains qui sont fatigués par cette guerre coloniale qui, depuis 8 ans, dévore les jeunes gens. Cela fait 21 ans que la France est en guerre. Les Français de métropole en ont marre ou s'en contrefoutent.
Y répondre par la négative, pour quelque raison que ce soit, c'est refuser que le problème soit jamais résolu par la France. S'abstenir, c'est choisir l'impuissance pour la France. Voter le projet, c'est vouloir que la France puisse gagner en Algérie, pour l'Algérie, avec l'Algérie, la cause de la paix et de la réussite.
Ceux qui voteront non et qui d'avance ont perdu la consultation, ce sont les presque 1 million de pieds noirs. Voteraient non aussi les militaires putschistes qui, en 58, ont ramené De Gaulle au pouvoir à l'occasion d'un coup d'État, espérant que le général leur donnerait les coups des franges pour écraser la révolte algérienne et rétablir l'apartheid de l'Algérie coloniale française. Mais comme on dit, De Gaulle, qui est arrivé au pouvoir sur les épaules des parachutistes, De Gaulle a compris que la guerre d'Algérie ne peut être gagnée. L'important est de garder le Sahara pour tester des bombes atomiques et la mainmise sur le gaz et le pétrole d'Algérie. Trahis par l'homme qu'ils ont porté sur le trône, des militaires retentent un deuxième putsch en avril 61.
22 avril 1961, pour lutter contre ce qu'ils appellent l'entreprise d'abandon de l'Algérie et du Sahara par le général de Gaulle, les généraux en retraite Challes, Jouot, Zeller, hostiles à l'autodétermination, décident de soulever l'Algérie contre la métropole.
Dans la nuit du 21 au 22 avril, suivant un plan préparé depuis des semaines, les parachutistes du 1er REP et les commandos de l'air se sont emparés des points vitaux d'Alger.
La population européenne pavoise. L'armée est au pouvoir.
Français et Françaises, de toutes origines et de toutes confessions, l'armée vous parle.
L'armée française avait fait le serment solennel de garder l'Algérie dans la souveraineté française. Ce serment, nous venons aujourd'hui, au nom de l'armée, vous le renouveler. Nous assurons les musulmans que la France ne les abandonnera jamais et qu'ils peuvent être certains d'avoir dans notre belle Algérie fraternelle la place de choix qu'ils méritent. Et nous assurons aux Européens qui ne se verront pas contraints de quitter leur terre natale. Et à tous, Européens et musulmans, nous disons avec la foi la plus complète dans notre succès, vive la France.
Des membres de cette armée française, en 58 puis en 61, vont quand même organiser deux putschs en aussi peu de temps. Cela fait frémir quand on pense qu'il s'agit là de l'armée de la République.
C'est vrai, avec une petite nuance, c'est que celui de 58, il était destiné à remettre De Gaulle à la tête de la France, mais en espérant, pour tous ces partisans de l'Algérie française, que lui aussi, De Gaulle, agirait dans le sens de la restauration de l'Algérie à la France. De Gaulle a compris qu'il était impossible de réaliser l'Algérie française telle qu'elle était voulue par ce qu'on appelait les ultras. Il a d'ailleurs dit à Pierre Fitte que l'Algérie française c'était une entourloupette qui consistait à vouloir qu'il y ait dans une grande France, incluant l'Algérie, un cinquième d'Algériens pour 4/5 de Français, que donc la majorité serait en faveur des Français de l'Hexagone. Je ferme la parenthèse. Le deuxième putsch, lui, il était très différent puisqu'il était opposé à De Gaulle. De Gaulle ayant évolué et les ultras s'étant durcis dans leur position, il y avait forcément une opposition entre les thèses de De Gaulle et celles des autres. Ce deuxième putsch était dirigé contre les partisans de l'Algérie algérienne, donc De Gaulle, et contre ceux qui voulaient un référendum dont chacun sait qu'il serait en faveur de l'Algérie indépendante.
Un putsch qui échoue 4 jours plus tard, le contingent et l'armée restant fidèles à De Gaulle.
Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un pronunciamento militaire.
De Gaulle.
Les coupables de l'usurpation.
Le 24 avril 61.
Ont exploité la passion des cadres de certaines unités spéciales.
Après l'éclosion de ce nouveau complot.
L'adhésion enflammée d'une partie de la population de souche européenne égarée de craintes et de mythes. L'impuissance des responsables submergé par la conjuration militaire. Ce pouvoir a une apparence. Un carteron de généraux en retraite, il a une réalité. Un groupe d'officiers, partisans, ambitieux et fanatiques.
Mais pour toi, Pat, en 1961, plus que le putschiste de 58, Charles de Gaulle ne reste-t-il pas l'homme du 18 juin 40?
Ici, Londres.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et je vais plus loin que de dire que c'était mon compagnon de lutte. C'était le chef de ceux qui voulaient faire cesser l'oppression nazie et restaurer l'indépendance de la France. Hein. Il n'y a pas de circonvolution à prendre pour ça. Hein. C'est vraiment lui qu'on reconnaissait comme notre chef. Hein. Celui qui nous a entraînés vers l'indépendance d'un pays occupé par une puissance étrangère. Et donc, je croyais naïvement, comme beaucoup de mes camarades, qu'il aurait la même attitude à l'égard des autres populations qui étaient, elles aussi, en droit de vouloir l'indépendance de leur pays, comme au Vietnam ou en Algérie. Il a pensé que ce qui était bon pour les Français ne l'était pas pour d'autres, parce qu'il était profondément patriote et même, on peut dire, nationaliste. C'est en ça qu'il m'a déçu, parce que j'avais toujours en moi le croire que lui-même, dans le fond de son cœur, il croyait toujours à cette vérité qu'il a exprimée d'ailleurs auprès de Perfit. De nos jours, aucune force au monde ne peut lutter contre un peuple voulant son indépendance. Il a dit ça. Au fond de moi, je croyais toujours que lui-même, au fond de lui, avait cette idée-là.
Aidez-moi !
Aujourd'hui encore, tu l'aimes bien ?
Je l'aime, oui, pour ça. Et puis je n'aime pas du tout pour sa volonté de vouloir imposer la souveraineté française sur des populations jadis coloniales. Il y a deux hommes en lui, un que j'aime et puis un autre que je n'aime pas.
Encore un combat intérieur alors.
Tout à fait.
Je vous ai compris.
Bonjour et vive la France. Mon général de Gaulle, soyez le bienvenu. Après voilà 12 ans, garçons et filles, pelotons, escadrilles, se rallient à votre commandant.
Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales?
Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Et ai-je une seconde à tenter? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Je commence une carrière de dictateur. Je commence une carrière de dictateur.
Est-ce que tu lui en as voulu d'avoir pris le pouvoir à la suite d'un putsch en 58? C'est quand même pas rien.
Ah oui, j'étais pas du tout d'accord avec ce qu'il avait fait, hein, et avec ce que d'autres, dont le fameux comité de salut public algérois, avait fait pour le remettre en place. Hein. Je considérais que c'était une atteinte profonde à nos institutions démocratiques. Mais plus tard, lorsque j'ai vu qu'il évoluait, qu'il allait dans le sens de l'autonomie, puis de l'indépendance algérienne, mon opinion envers lui a changé.
Le référendum est d'abord un succès pour le général de Gaulle.
Michel Debré, au sujet du référendum sur l'autodétermination de l'Algérie.
Le référendum est ensuite un succès pour la nation.
Janvier 1961.
Depuis quelques semaines, la discorde paraissait dominer la vie de la cité. Elle faisait douter de la cohésion nationale et peut-être de la capacité de la France à régler le grave problème qui se pose à elle. La réponse de l'électeur est claire et parmi les votants, sans doute, près des trois quarts vont répondre par l'affirmative.
J'ai voté forcément oui, avec une grande majorité d'appelés. J'étais pas seul, hein, il y avait d'autres officiers républicains qui ont voté oui également. Les uns parce qu'ils voulaient aboutir à l'indépendance de l'Algérie, c'était une petite minorité, mais d'autres tout simplement parce qu'ils pensaient que c'était la solution la moins mauvaise pour la France et qu'il fallait suivre de Gaulle. Alors ça, c'était les partisans du oui. Maintenant, les partisans du non. Si mes souvenirs sont exacts, en Algérie, il y avait 1,5 million de oui pour la moitié à peu près, 750 000 non. les partisans du non, bah, c'était presque tous les pieds noirs, tous les membres de l'armée d'active qui étaient favorables à l'Algérie française, pour la plupart des officiers et des sous-officiers.
Moi, général Gouraud, votre chef, j'ai décidé de me ranger avec toutes mes unités sous les ordres du général Charles, commandant en chef interarmée en Algérie.
La population européenne, tout à sa joie, veut revivre la kermesse du 13 mai.
Toujours en me référant à ton livre « Les désarrois d'un officier en Algérie », ce 22 avril 1961, à 6h, je suis réveillé par un coup de fil de mon chef de bataillon. Votre compagnie doit se mettre en alerte à 1h, car Alger est entre les mains des paras et de la Légion. Comment tu reçois cette nouvelle ?
Bah, comme une gifle, hein, parce que j'avais pris des billets pour que ma femme rentre avec notre petit garçon en métropole. Et j'avais pris les billets pour ce jour-là, précisément. Alors, ils sont restés là. Et puis, on a attendu. Au début, on était envahis par la radio d'Alger, qui annonçait victoire sur victoire de ceux qui s'étaient opposés à la politique de De Gaulle. Et c'était, en général, des officiers proches des idées fascistes, hein, qui étaient à la tête de ça.
Français et Françaises, l'armée vous parle.
Ces gens-là ont fait des déclarations disant que toutes leurs unités se ralliaient à ce qu'on appelait après ça le quarteron de généraux. Félon, pour nous, on était très inquiets parce qu'on croyait vraiment que presque toute l'armée française d'Algérie passait de l'autre côté. Hein. On restait un très petit nombre, on se téléphonait entre nous, les quelques... Les uns qui étions opposés à ça, pour dire ben, il faut qu'on résiste, hein, il faut absolument s'opposer à ces mecs-là. Quoi. Le capitaine Plénard, qui commandait la gendarmerie de Mascara, était un vieux républicain, et on l'a considéré comme notre chef, parce que celui vraiment a dit il faut absolument résister. Hein, alors que mon chef de bataillon, les colonels commandant en titre et en second le secteur de Mascara étaient à fond pour l'Algérie française et pour ce quarteron de généraux. Alors, on se sentait en minorité, mais décidé à résister malgré tout. On était inquiets, on disait, mais qu'est-ce qu'il fout, De Gaulle, il parle pas, et heureusement... Le soir du deuxième jour de l'insurrection, il a pris la parole et là, il nous a tous libérés en prenant position très nettement contre ces généraux félons.
Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. J'interdis à tout Français et d'abord à tous soldats d'exécuter aucun de leurs ordres. Françaises, Français, voyez où risque d'aller la France. Françaises, Français, aidez-moi.
Ça m'a permis de faire défiler ma compagnie, bien qu'il soit tard et que c'était à la nuit tombante, au milieu du village que j'occupais, de Dublino. Et puis on a chanté la Marseillaise pour bien montrer qu'on était satisfait. Mais j'ai eu maille à partir avec le maire du village où j'étais, Dublino, qui lui avait mis les drapeaux partout pour fêter cet événement. J'ai téléphoné à mon chef de bataillon qui m'a dit « Oh surtout, n'y touchez pas, c'est formellement interdit, seuls les drapeaux FLN doivent être retirés. » Bon, alors j'ai pas touché au drapeau, mais j'ai trouvé une combine. J'ai envoyé acheter à Mascara une grande banderole de calicot, puis j'ai fait inscrire dessus « Obéissance au seul gouvernement de la République française ». On a regroupé les drapeaux du maire et au milieu de cette banderole, et évidemment ça changeait complètement le sens de la manifestation qu'espérait le maire. Et je me suis fait engueuler par mon chef de bataillon, je me suis fait engueuler par le colonel qui avait demandé à mon chef de bataillon de me retirer le commandement de ma compagnie. Et le chef de bataillon a refusé quand même parce qu'il avait des doutes sur l'issue.
Et il se disait, ça risque d'aller mal pour moi si je procède ainsi. Et il m'a laissé le commandement de ma compagnie. Mais malgré tout, je m'en suis ressenti après dans les notes que j'ai eues hein, de ça, parce que j'aurais pu passer chef de bataillon beaucoup plus tôt, mais j'ai eu des notes absolument incendiaires de la part de mes chefs pro-Algérie française ou Algérie française. Et voilà.
Si j'entends bien ce que tu es en train de dire... Ton avancement dans l'armée a été retardé à cause de ta loyauté vis-à-vis de la République.
C'est exactement ça, hein. C'est ça. Hein. C'est... Alors que d'autres, comme par exemple, je prends le cas de Noix de Saint-Marc qui vient de mourir.
Élie de Noix de Saint-Marc, hein, qui fut dans la résistance, déporté, mais qui fit partie active de ces officiers qui mettent la main sur Alger. Au moment où nous enregistrons cet entretien, Pat, nous sommes fin août 2013 et Élie de Noix de Saint-Marc vient de disparaître.
J'ai appris qu'il avait été fait grand croix de la Légion d'honneur. Ça me semble curieux qu'un type qui a envoyé son régiment de Légion étrangère marchait sur Alger pour que le carton de généraux prenne le pouvoir soit aujourd'hui décoré de cette façon-là.
Alors sont venus les honneurs, les décorations, les médailles, pour chaque balle au fond d'un cœur, pour chaque entaille, pour chaque croix noire sur ta liste, parachutiste.
Français et Françaises, de toutes origines et de toutes confessions, l'armée vous parle.
Salan veut se servir des groupes civils de l'OAS pour remporter une victoire définitive en Algérie et des commandos parachutistes pour renverser le régime en métropole. Charles s'y oppose. Il veut terminer sa guerre, écraser définitivement le FLN et remettre l'Algérie française sur un plat d'argent au gouvernement de la République qui ne pourra la refuser.
Je reviens à la situation que tu occupes avant que De Gaulle ne prenne la parole à la radio. Il te faut décider en fait d'être en insubordination vis-à-vis de tes officiers directs. C'est pas facile ça pour un soldat. Il faut que tu prennes sur toi de te dire l'ordre qui m'est donné par mon officier hiérarchique n'est pas valide et je ne l'exécuterai pas. Est-ce qu'un soldat ne se met pas en faute dans ce genre de situation?
Oui, j'ai eu une discussion avec mon chef de bataillon qui était venu me voir en me disant, en me demandant de retirer mes banderoles, et je lui ai dit non, je ne les retire pas. Je les retirerai si j'ai la certitude que vous êtes du côté de la légalité républicaine. Alors, il était un peu gêné. Il m'a dit, vous savez, il faut maintenir l'unité du bataillon, il faut obéir à nos chefs, c'est la voie de la hiérarchie qui veut ça. Et nos chefs, le colonel, le commandant de secteur, nous disent de nous... Il m'a pas dit d'être du côté des généraux, mais c'était ça ce que ça voulait dire, quoi. Il me l'a pas dit ouvertement, mais enfin, il m'a laissé comprendre. Alors moi, je lui ai répondu, tu sais, mais j'ai dit, mais moi, j'estime être dans la légalité, puisque j'obéis au chef suprême des armées, qui est De Gaulle, qui nous dit de ne pas obéir à ceux d'Alger. Voilà.
Il y a quand même un flottement de 24 ou 48 heures avant que De Gaulle ne prenne la parole.
Oui, oui.
Donc pendant deux jours, c'est de ton libre arbitre.
Oui, oui, pendant deux jours, moi j'ai dit, mon véritable chef, c'est Plénard, le capitaine de gendarmerie, et c'est plus mon chef de bataillon. Si les choses prennent une mauvaise tournure, moi je claque la porte de l'obéissance à mon chef de bataillon et j'obéis à Plénard.
Comment réagissent les hommes de troupe dont tu as la responsabilité, les appelés ?
Ils étaient tous avec moi, ça, là je ne peux pas dire le contraire. La preuve, c'est que j'ai fait signer un manifeste le soir du putsch, ou le lendemain soir, je ne me souviens plus bien, qui déclarait notre subordination directe au général de Gaulle et à tous ceux qui suivaient ses ordres, en disant à l'exclusion de tous les usurpateurs auxquels nous ne devions pas répondre. J'ai signé ce papier et je l'ai fait transmettre à De Gaulle par la voie hiérarchique. J'ai appris par la suite qu'il n'y était jamais arrivé. Alors j'en avais envoyé un autre par une voie indirecte. Je ne sais pas s'il l'a reçu, mais j'espère. Ce document figure dans les archives du bataillon, puisque
du BCP, puisque je l'ai remis directement à mon chef de bataillon pour qu'il suive la voie. D'ailleurs, mon chef de bataillon m'a dit le surlendemain, les choses se clarifient, puisque notre général, le général Demandit, qui commande la 5e DB à laquelle nous appartenons, a déclaré son attachement aux ordres du général de Gaulle. Voilà. Donc, il n'y a plus de problème maintenant, m'a-t-il dit. Nous sommes derrière lui. Il avait viré sa cutie.
En dépit de nombreuses promesses reçues pendant la préparation du complot, le général Charles sent qu'il y a du mou dans la corde. De nombreux officiers supérieurs refusent de se révolter contre le gouvernement de la République.
Aucun cas de conscience à avoir. Nous avons un gouvernement, nous obéissons à nos chefs, c'est tout simplement.
Si vous vouliez faire de la politique, que feriez-vous, mon commandant ?
Moi, je prendrais la retraite, tout simplement, et je ne la ferai pas en tant que chef de bataillon, mais en tant que citoyen, avec un chapeau de mouche.
Quelque temps après, lors d'une soirée un petit peu alcoolisée entre sous-officiers, il y en a un qui perd la tête, pris par la boisson, et qui décide en pleine nuit d'aller te buter, parce qu'il te prend pour un traître.
Oui, je disais tout à l'heure que les hommes de troupe m'étaient tous attachés, fidèles aux mêmes convictions de loyauté envers la République. Et ils ont tous signé le manifeste, sauf trois sous-officiers, je crois qu'ils n'ont pas voulu signer, deux sous-officiers qui étaient Algérie française, et puis un Algérien qui est un Français musulman, quoi. Qui m'a dit, moi, c'est une affaire franco-française, je vais pas intervenir là-dedans. Bon, et parmi les deux sous-officiers qui n'ont pas voulu signer le manifeste, il y en a un qui, quelques temps plus tard, à la suite d'une soirée alcoolisée, a pris sa mitraillette, puis il est parti en disant, je vais buter le Pitten parce que c'est un salaud, c'est un traître, il est pour le FLN. Et fort heureusement, j'ai plusieurs autres de ses camarades qui l'ont arrêté, et puis mon lieutenant en premier qui lui a fiché son poing dans la figure pour le dessouler, et puis qu'il ne mette pas à exécution son projet. Le lendemain, quand il était dessoulé, je l'ai fait venir à mon bureau, je lui ai dit que je n'appréciais pas du tout, alors il s'est excusé bien sûr, et puis, mais moi je lui dis, je mets ça sur le compte de la boisson, mais je considère que malgré tout, vous avez commis une grave faute, et je demande, parce que moi j'ai pas le droit de les mettre, mais j'ai le droit de demander à mon chef de bataillon 15 jours d'arrêt de rigueur à votre égard. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai demandé 15 jours d'arrêt de rigueur, et sa mutation de ma compagnie. Sa mutation de ma compagnie a été accordée par mon chef de bataillon, mais j'ai appris par indiscrétion après que les 15 jours d'arrêt de rigueur ne lui ont pas été décernés.
L'armée française d'aujourd'hui n'est probablement plus ce qu'était l'armée française de 1961. Armée de caste, dont une grosse moitié des cadres étaient anti-républicains, voire fascisants. Les écoles d'officiers de l'époque étaient de véritables pépinières d'extrême droite.
Les sous-officiers et les officiers ultra manipulaient les appelés. Le meilleur exemple, c'est le 3e bataillon de Guijard, qui était formé d'appelés. Et c'était des engagés, hein. Donc ils étaient volontaires. Mais il les a mis dans sa poche et a réussi à les convaincre d'obéir à ses ordres.
Les paras, unité de pointe du plan Charles, accumulent les succès. Le plus célèbre de leurs colonels, Bijard, explique leur rôle.
Le plaisant de guerre, pas pour nous, pas une guerre colonialiste. Bijard n'a pas de chemise, mes officiers non plus. Nous nous battons ici pour eux, pour l'évolution, pour voir l'évolution de ces gens-là. Et c'est une guerre à eux, nous défendons la liberté, au même titre que, à mon avis, nous défendons la liberté de l'Occident. Nous sommes ici des ambassadeurs, des croisés qui nous accrochons pour que nous puissions continuer à parler et avoir le droit de nous exprimer.
Bijard, en 1959, se voit comme un croisé défendant l'Occident. Tout un programme.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien.
Il y aura encore bien des choses à dire sur la guerre d'Algérie, mais c'est bientôt la fin de cette rencontre qui a été enregistrée au cours de l'été 2013. Et à propos de l'Algérie française, Pat va maintenant vous dire pourquoi il n'y a jamais cru. Attention, l'analyse de cet homme, né en 1922, dans un autre monde, va en choquer certains parmi vous.
Je voyais mal l'Algérie
devenir française. L'Algérie française, ça allait absolument à l'encontre des intérêts de la France, parce que on aurait eu 9 millions d'Algériens pouvant circuler librement dans toute la métropole, s'installer partout, ils voudraient avoir les mêmes fonctions, les mêmes attributions que les métropolitains. Comme ils sont très prolifiques, je les voyais dans moins d'un siècle plus nombreux que les Français de métropole. Et est-ce que c'est vraiment l'intérêt de la France d'abonder dans le sens de l'Algérie française ?
De Gaulle aurait un jour dit « Je ne veux pas que Colomber les deux églises deviennent Colomber les deux mosquées ». Et il aurait rajouté « C'est comme l'huile et le vinaigre, hein. Vous mélangez l'huile et le vinaigre, au bout d'un moment, ça se sépare ».
Oui, sans aller jusque-là, moi j'ai dit assez souvent que cette juxtaposition en France d'Algériens musulmans et de Français catholiques n'était absolument pas ce que beaucoup disaient l'intégration. L'intégration, je la voyais mal. Et je pensais qu'il y aurait toujours ces deux communautés qui exposeraient chacune leur point de vue, lesquelles ne seraient pas toujours compatibles. Sans aller jusqu'à ce que De Gaulle a dit et écrit, je pense qu'il avait en partie raison sur... Je voyais mal, je pensais qu'on courait à une guerre civile si on faisait l'Algérie française.
Il y a une chose dans tes livres que tu pointes très souvent, c'est le poids de la religion sur les Algériens autochtones, sur les musulmans. Tu parles même d'islamisme, tu parles aussi très souvent de la condition de la femme algérienne, qui est déplorable, qui est moins que rien. Islamisme, tout ça c'est déjà présent quand tu es en Algérie dans les années 60.
Oui, on aurait pu penser que la présence française pendant la colonisation allait faire évoluer le statut de la femme, mais il n'en a rien été, parce que les autorités françaises se seraient mis à dos les autorités musulmanes de l'Algérie si la condition de la femme avait évolué. Ils ont préféré laisser garder le statu quo. Ça s'est maintenu pendant la guerre d'Algérie, cette position-là. C'était trop tard ou trop tôt, j'en sais rien, pour faire quelque chose dans le sens de l'évolution féminine là-bas.
Finalement, quand les tristes événements des années 90 ont eu lieu en Algérie, terrorisme, guérilla, qui va égorger des villageois, etc., on ne peut pas s'empêcher de voir un retour de la guerre d'Algérie dans ces années 90. Je suppose que toi, tu as suivi ça à la radio, comme tout le monde, et que quelque part, ça n'a pas dû te surprendre, ce qui s'est passé chez ces pauvres Algériens dans la décennie 90.
Non, ça ne m'a pas surpris du tout, non, Je pensais qu'il pouvait très bien y avoir cette évolution-là. On peut être surpris.
Voilà les amis, nul doute que certains d'entre vous sont scandalisés par ce que vous venez d'entendre. Ces propos, enregistrés en 2013, sont ceux d'un homme né au début du siècle dernier, dans une autre société qui avait des colonies et où à l'école, on expliquait aux petits-enfants que c'était bien d'apporter la civilisation à ces indigènes inférieurs. Nul doute que Pat aurait aujourd'hui pris des précautions oratoires si nous avions eu cette conversation après la tuerie de Charlie Hebdo. Et c'est sur ce malaise qu'on vous laisse aujourd'hui, en vous rappelant que des histoires poussiéreuses vieilles de 60 ans peuvent parfois ressurgir du passé et brusquement vous sauter à la gorge. Tout reste à dire sur les ravages de la colonisation d'hier et d'aujourd'hui. Colonisation qui décapite des élites pour laisser place à l'obscurantisme et à la médiocrité. Tout reste à dire sur cette révolution algérienne qui a été confisquée au peuple par des affairistes qui n'étaient pas ceux qui avaient mené le combat de l'indépendance. Aucun peuple, ni français, ni algérien, n'a joui de cette indépendance algérienne détournée qui a accouché d'un pays raté. Personne n'en a profité, à commencer par les femmes algériennes que le pouvoir FLN et une société religieuse et machiste ont bien mal récompensées pour leur implication dans le combat indépendantiste. Plutôt que de partager intelligemment les immenses richesses de l'Algérie, la dictature FLN en place depuis des décennies a opté pour une société rétrograde, teintée de religions sectaires et d'arabisme d'arrière-garde, tournant volontairement le dos à la culture européenne pour donner aux Algériens l'illusion d'une identité nationale de pacotille. Cela a d'ailleurs très bien convenu à la France, qui a pu continuer à pomper pétrole et main-d'œuvre d'Algérie
et à y refourguer sa camelote sortie de nos belles industries. Pat a eu, lui, le courage de raconter sa guerre d'Algérie. Et ce faisant, il ne s'est pas fait que des amis, car il faut bien que vous compreniez que sa parole est rare. La guerre d'Algérie est une plaie toujours béante qui fait peut-être encore souffrir quelqu'un que vous connaissez. C'est ce que Pat vous rappellera au prochain épisode. En attendant, vous pouvez réécouter tous les chapitres de cette série sur le www.polemix.com. Salut!
Radio G. 105 F.